Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Saint-Roch.
Donc vous êtes une montpelliéraine, un pur jus.
Bah, Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui ne m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices et amis auditeurs de Racontez-nous votre Montpellier, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation, sujet majeur dans la société française pour les familles et les personnels, sujet chaud qui déclenche de nombreux débats et de vives controverses, comme on l'a vu ces derniers jours à propos de la très brièvement ministre de l'Éducation. Très vaste sujet, me direz-vous. Nous allons donc en aborder un seul aspect. Il est décisif, c'est la formation des enseignants, c'est-à-dire la formation des formateurs. Pour nous en parler, j'ai invité la responsable qui est en première ligne sur cette question, ici à Montpellier, la doyenne de la faculté d'éducation, composante de l'Université de Montpellier. Faculté qui, jusqu'en 2013, s'appelait, on s'en souvient peut-être, IUFM, Institut Universitaire de Formation des Maîtres. Agnès Perrin-Doucet, merci d'être venue au micro de Divergence FM. Vous êtes maître de conférence, est-ce qu'on peut dire maîtresse de conférence?
Oh ben oui, on peut dire maîtresse.
Alors, maîtresse de conférence, allons jusqu'au bout de la logique. En langue et littérature française, vous êtes aussi une spécialiste, en tout cas vous avez un intérêt particulier pour la didactique. Alors, au passage, dites-nous ce que c'est la didactique, proposez-nous une définition.
Alors, la didactique, c'est une discipline de recherche, une discipline scientifique, hein, qui vise à interroger les moyens, les pratiques, les activités d'enseignement pour construire des outils de formation pour les enseignants, mais pas uniquement, ça peut être aussi pour les éducateurs, hein, qui sont liés à la fois à la professionnalité, il y a des didactiques professionnelles, ou alors à des disciplines, plutôt des disciplines scolaires. En l'occurrence, moi, ma discipline, c'est la littérature. Donc, je suis didacticienne de la littérature.
Voilà.
J'interroge donc la manière dont...
Cette matière est enseignée?
Alors, dont elle est enseignée, dont les enseignants la pratiquent, dont les élèves l'apprennent, et puis dont les travaux théoriques nous permettent de la penser, en fait, dans des dimensions épistémologiques, historiques. Voilà.
Voilà, donc c'est un domaine de recherche appliqué au champ de la formation et de l'éducation.
C'est ça, voilà. C'est ça. C'est comme une spécialité, hein, en langue et littérature française. Vous avez des 16e-istes, ouais, des 20e-istes et, ouais, vous avez des didacticiens. En fait.
Alors, ça me permet de préciser qu'au passage, parce qu'on n'aura peut-être pas le temps de le traiter, qu'au sein de la faculté, il y a des activités de recherche d'un certain nombre d'enseignants ou de chercheurs qui contribuent au travail que vous venez de décrire à grands traits. Très bien. Alors, vous avez enseigné à une école primaire, un collège et un lycée. Après ce travail de terrain, vous êtes orienté vers la formation des enseignants à l'IUFM de Valence, à celui de Créteil, puis donc à la faculté d'éducation de Montpellier, d'abord comme directrice adjointe, et puis aujourd'hui comme directrice ou doyenne. Mais avant que vous nous parliez de votre métier, de vos responsabilités, racontez-nous votre Montpellier. Agnès Perrin-Doucet, quels sont les lieux à Montpellier que vous appréciez particulièrement, auxquels vous êtes attachée, ou que vous conseillez à vos amis ou parents de passage?
Alors, étant une Montpelliéraine d'adoption, ma découverte de Montpellier en 86, à la faveur de vacances, ça a été dans cette transition entre Antigone, qui était en train de se construire, hein, cette architecture de Beaufil que j'ai adorée, vraiment, et ce contraste avec l'Écusson.
Oui, la partie médiévale.
Voilà, c'est ce qui m'avait fascinée quand j'ai découvert cette ville.
Ouais. Et, c'est vrai, je vous coupe, c'est que c'est peu Montpellier avait la chance d'avoir un grand espace occupé par l'armée dans le centre-ville et qui a été l'objet de l'aménagement dont vous venez de parler. Quoi.
Oui, oui. Et c'est vrai que j'aime particulièrement l'architecture de Beaufil parce qu'elle nous rattache finalement à nous passer, au, oui, passé, aux humanités,
oui,
antiques.
Enfin, bien sûr. Oui, parce que son style néoclassique est parfois décrié, mais
il me parle. Et puis j'ai vécu en Seine-Saint-Denis, donc je l'ai redécouvert aussi en Seine-Saint-Denis puisqu'il a construit des quartiers dans cette région aussi. Et finalement, les quartiers que j'aime, ben, ils sont mitigés. J'aime beaucoup l'Écusson, ça c'est sûr, mais je crois que c'est presque un lieu commun de dire ça. Hein. Donc, je fais visiter, bien sûr, le Jardin des Plantes, Je le fais visiter, qui
appartient à l'université. Ben
voilà,
il faut le rappeler.
Deux fois de plus, parce que ça, je suis assez fière d'enseigner et de diriger une composante dans cette université, parce que son patrimoine est magnifique. Mais je fais aussi visiter les rives du Lez, les parcs. J'aime beaucoup le parc Méric. Les quartiers aussi, en arrivant à Montpellier, j'ai vécu dans le quartier Celle-Neuve, que j'aime aussi beaucoup. Alors, je ne vivais pas dans le vieux Celle-Neuve, mais c'est clairement le vieux Celle-Neuve qui m'a attirée, oui. Léo Mallet.
Le village.
Voilà, le cinéma Nestor Burma. C'est toute cette... finalement, Montpellier est une ville cosmopolite. C'est une ville de bord de Méditerranée, une ville cosmopolite. Pour une jurassienne comme moi, c'est un autre univers, forcément. Et donc, ce cosmopolitisme se retrouve aussi dans l'architecture de la ville et dans la manière dont la ville a grandi. Alors, certains diront pas toujours de façon équilibrée, mais c'est ces transitions et ces paradoxes presque architecturaux qui m'intéressent.
En tout cas, vous y avez fait allusion. Vous ne le voyez pas négativement, en tout cas complètement négativement, la mutation démographique, urbanistique que la ville a connue ces dernières années ?
En étant Montpellier-Rennes d'adoption, on ne peut pas se dire que cette ville ne peut pas grandir au fur et à mesure que les gens arrivent ici. C'est plutôt intéressant de voir comme cette ville attire. Pas seulement des touristes, des gens qui viennent, qui découvrent en touriste et qui finalement ont envie de s'y installer. Alors moi, j'ai eu deux expériences avant de venir vivre à Montpellier. Cette expérience de 86, de vacances, voilà, de touriste. Et puis une expérience de mère d'un étudiant à Montpellier, puisque j'ai un de mes enfants qui a fait Subdeco et qui est entré à Subdeco, qui est sorti à Business School, dans les années 2007-2011. Et là, on a découvert, c'est lui qui nous a fait découvrir son Montpellier.
Oui, le Montpellier des étudiants. Oui.
Le Montpellier des étudiants et puis, le Montpellier de... Oui, c'est ça, le Montpellier des étudiants. Donc j'ai cette double expérience.
Alors, dernière question sur ce chapitre. Donc, votre parcours vous a conduit à Lyon, Grenoble, à Valence, en région parisienne, puis vous avez voyagé. Qu'est-ce qui, selon vous, définit Montpellier, quoi ? Quels sont les traits de caractère qui permettaient de traduire un style de Montpellier ou une manière d'être une ville de Montpellier ?
Alors, pour moi, déjà, les traits de caractère, ils sont liés à son implantation géographique et à l'Hérault, en général. La première chose qui m'a marquée en arrivant, et je suis arrivée, j'ai vécu dans le Jura, j'ai vécu dans la Drôme, j'ai vécu en région parisienne, c'est la lumière. Cette lumière extraordinaire qu'on oublie quand on vit à Montpellier, mais quand on prend un train, par exemple, et qu'on descend à la gare de Lyon, c'est l'absence de lumière qui est frappante. Ça, c'est vraiment une ville... J'ai vécu à Lyon, qui s'appelle la ville lumière. C'est une ville où la lumière... Enfin, c'est une région où la lumière est forte. Alors, on sait pourquoi. Il y a des raisons géographiques, climatiques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le cosmopolitisme de la ville. C'est une ville Le brassage. C'est une ville méditerranéenne. Donc, de tout temps, a été tourné vers la Méditerranée. Et ça aussi, c'est quelque chose que je trouve extrêmement intéressant parce que ça, pour une humaniste, ça relie...
La Méditerranée, berceau de la civilisation.
Bien sûr, ça nous relie aux civilisations. Donc, c'est le deuxième point. Et après, il y a une identité forte, je trouve... qui est lié aux origines occitanes, languedociennes, aux luttes politiques, au protestantisme, à ces luttes entre le protestantisme et le catholicisme. Pour quelqu'un qui est attaché à la laïcité et aux valeurs de la République, comme je le suis, c'est évidemment des éléments forts et on sent une identité forte liée aussi aux immigrations, et notamment à l'immigration espagnole, des réfugiés espagnols, mais pas uniquement. Donc ce sont des éléments qui, pour moi, sont extrêmement importants. Alors c'est vrai aussi que je suis née dans le Jura et que c'est aussi une terre d'immigration.
Oui.
Mais d'une autre immigration, d'une immigration suisse d'abord, ce qu'on ne sait pas avant la guerre 14, et puis ensuite d'une immigration italienne beaucoup, un peu espagnole. Donc c'est aussi une... Enfin, j'ai grandi aussi dans ce brassage, et ce brassage est pour moi important, et il faut faire très attention de le maintenir en fait.
Alors merci de cette évocation. On en vient maintenant à vos activités. Vous avez décidé de vous consacrer à la formation des enseignants. Pourquoi cette inflexion dans votre parcours professionnel ?
Alors, mon parcours, c'est un parcours... J'ai passé tous les concours que l'éducation nationale a inventés. Hein. D'abord, le concours de l'école normale d'institutrice que j'ai eu en 86, que j'ai passé plusieurs fois, parce que j'avais la vocation d'être institutrice, je crois que...
Ah oui, ça, c'est une...
Et puis, dans ma famille, c'était un métier acceptable pour une fille. Je suis issue d'un milieu modeste, très traditionnaliste.
C'est une forme d'émancipation, de progrès personnel.
Certainement pour mes parents, parce que c'était acceptable, vraiment. Mes parents imaginaient que je pouvais enseigner dans le premier degré. C'était un progrès, évidemment, parce que mes parents n'ont pas de diplôme. C'était un moyen d'ascenseur social. Mais c'était aussi un métier acceptable pour une femme.
Voilà. Je vois.
J'ai grandi dans cette... fait, je n'ai pas su être institutrice. J'ai été recrutée, j'avais déjà un doc, j'avais fait une classe prépa littéraire. Et j'étais une littéraire et j'étais incapable d'enseigner certaines disciplines, comme les mathématiques, par exemple. Et ça nous ramène à la difficulté de ce métier, hein, dont on parlera peut-être après.
Volontiers.
Donc, très vite, j'ai compris qu'il fallait que j'évolue et que je me consacre à la discipline que je préférais enseigner, en l'occurrence le français. Donc, j'ai passé les concours interne, le CAPES, l'agrégation. Et à la faveur de mes expériences, de cette expérience intéressante qui mêle premier et second degré, on est plusieurs à la faculté d'éducation enseignants à avoir cette expérience-là, hein, je ne suis pas la seule. Je suis rentrée en formation d'enseignant par la petite porte, hein, comme chargée de mission, puis je suis devenue professeure agrégée détachée dans l'enseignement supérieur, d'abord dans la Drôme, puis en Seine-Saint-Denis. Et je suis arrivée à Montpellier sur le poste d'enseignant-chercheur. J'ai fait une thèse que j'ai soutenue juste avant mes 50 ans. Donc voilà, c'est un parcours long, mais finalement...
Long, mais cohérent.
Est très cohérent. C'est-à-dire que j'ai deux passions. Une passion pour la littérature et de transmission, d'envie de transmettre les raisons pour lesquelles la littérature, c'est important dans la vie des gens. Pas dans la vie des élèves, mais dans la vie. Et puis, une passion pour la pédagogie. Je pense que ça, c'est ce qui m'avait amené à enseigner dans le premier degré. Alors évidemment, enseigner d'abord à l'IUFM, ça m'a permis de travailler avec le premier degré et uniquement sur les disciplines qui m'intéressent, pas qui m'intéressent au sens auquel je crois, mais que je suis capable d'enseigner, en fait. Voilà. Donc, et arrivant à la faculté d'éducation, j'ai découvert... j'ai travaillé dans deux IUFM avant, vous l'avez dit, hein, et j'ai découvert une situation très particulière avec une équipe très soudée, en partie par la recherche, puisque l'IUFM de Montpellier avait déjà un laboratoire de recherche, qui est le LIRDEF, hein, qui est le laboratoire dans lequel une grande majorité des enseignants-chercheurs de la faculté d'éducation sont rattachés. Et ça, c'était vraiment une aventure très intéressante.
Qui vous
parce
a donc
que,
particulièrement intéressé.
C'est ce qui m'a permis. Enfin, c'est pour ça que j'ai choisi Montpellier, en fait, quand j'ai passé les concours de maître de conférence, parce que j'avais le choix entre Créteil et Montpellier, ce qui est une chance. Hein. Et j'ai choisi Montpellier parce que le profil, pas pour la ville, contrairement à ce que les gens croient, mais vraiment parce que le profil du poste m'intéressait pour cette raison. C'est-à-dire qu'il y a un laboratoire qui allie à la fois les sciences de l'éducation, les sciences de la formation, les didactiques, les questions épistémologiques, éthiques dans l'enseignement. Et c'est très rare parce qu'en général, ce sont parfois des laboratoires qui peuvent être en tension politique, alors qu'à la faculté d'éducation, le LIRDEF crée cette tension, dénoue ces tensions, pardon. Et il y a aussi un centre de recherche en histoire de l'éducation. Hein, c'est là, pour le coup, une bibliothèque historique, un centre d'archives avec un spécialiste de ces questions. Et donc, ça relie vraiment des outils extrêmement intéressants pour développer la recherche en éducation dans des dimensions fortes et larges.
Alors, le descriptif que vous venez de faire nous permet de mieux comprendre une partie au moins qui me semble peu connue, voire inconnue, des activités de la faculté. On va venir à la partie centrale de vos activités. Et d'abord, en nous expliquant, parce que ça me semblait une particularité dans l'université, ces différentes implantations que la faculté a, le réseau sur lequel elle travaille dans les départements de l'ancien Languedoc-Roussillon.
Alors oui, effectivement, la faculté d'éducation est implantée donc, dans les anciennes écoles normales qui sont devenues des IUFM. Et sa particularité, ce n'est pas toutes les structures françaises qui ont gardé cette particularité, c'est qu'elle a gardé un site par département du Languedoc, donc à Nîmes, à Mende, à Carcassonne et à Perpignan. Dans un contexte politique qui n'est pas toujours simple, parce que vous imaginez bien qu'un site à Mende, il faut le porter. Et alors là, il y a vraiment un enjeu territorial large, fort, puisque si on peut garder ces sites, c'est parce qu'il y a une volonté commune du président de l'université, des enseignants de la faculté d'éducation, mais aussi des collectivités territoriales à tous les niveaux, les mairies, les conseils départementaux et la région, qui soutient ce que la région appelle les villes universitaires d'équilibre et une implantation équilibrée de l'université. Évidemment, pour la formation des enseignants du premier degré, qui reste encore une forme d'ascenseur social, hein, enfin de développement dans les familles, de développement des études dans les familles, c'est très important, évidemment. Et on sait que la région est attachée à ces questions. Donc il y a une espèce d'alignement de planètes qui permettent de volonté commune, qui permettent de maintenir. Ouais. Et c'est vrai que... Il faut rendre hommage au président de l'Université de Montpellier qui accepte de maintenir un site à Mende et à Carcassonne notamment, où il n'y a pas d'autres universités implantées. À Nîmes, il y a l'UNIM. À Perpignan, il y a Perpignan via Domitia. À Mende, il y a une structure de l'UPVD, mais la faculté d'éducation est quand même le maillon qui allie de la licence au master un cycle complet d'études. Et alors, très soutenu hein, par les collectivités territoriales, évidemment.
Alors, cycle complet d'études, on va regarder ça de plus près. Alors, ce que je me suis dit, c'est que pour expliquer, on ne pourra pas bien sûr le faire dans le détail, l'ensemble, l'éventail de formations que la faculté propose, c'est de dire bon, quel type de fonction dans le monde de l'éducation, quel type de fonction vous préparez vos étudiantes et vos étudiants. Comme ça permettait aux gens de s'y retrouver. Quoi.
Oui, la première fonction, l'activité principale de la faculté d'éducation, ça reste la formation des enseignants, des professeurs des écoles, hein, des enseignants du premier degré. Nous formons tous les étudiants qui préparent le concours pour devenir professeurs des écoles et nous avons une licence. On en parle beaucoup en ce moment. Nous avons créé une licence. Mon prédécesseur a eu cette volonté avec l'équipe en place à l'université de créer une licence qui a ouvert en 2018 et qui est précurseur en fait de ce qu'on annonce aujourd'hui, qui a des résultats plutôt excellents, hein, puisque nos étudiants s'insèrent très très bien au concours. On a une première promotion qui s'est insérée l'année dernière à 85% étudiants qui ont suivi tout le cursus ont réussi le concours. Alors, le concours ici ou le concours en France. Donc ça, c'est notre première vocation. Nous avons aussi des métiers de l'encadrement éducatif, les CPE.
Hein, et puis, les conseillers principaux d'éducation. Oui.
Et puis, des parcours second degré. Nous en avons quatre qui sont plutôt tournés vers les lycées professionnels et lycées technologiques. Mais nous participons aussi à la formation des enseignants avec les autres universités pour les composantes pédagogiques et didactiques de la formation des profs de lettres avec Paul Valéry, des profs de mathématiques, des profs de sciences, etc. Ça, c'est notre activité principale, donc avec une licence qui préfigure ça. Ensuite, nous avons un master en sciences de l'éducation et de la formation, qui est un master qui forme des animateurs, des médiateurs, des formateurs dans trois domaines, le français, les langues et l'anglais, langue étrangère. Voilà, donc à Montpellier, ça a vraiment sa place par rapport au cosmopolitisme que j'évoquais au début. Un master qui vise la responsabilité sociale et environnementale, hein, qui forme des futurs animateurs, formateurs, médiateurs dans ces domaines de l'éducation à la santé, à la citoyenneté, à l'environnement, aux transitions.
Dans le domaine aussi novateur.
Absolument, et qui est labellisé RSE, hein, responsabilité sociale, et qui est ouvert à l'apprentissage. Et puis un master qui forme en médiation artistique et culturelle. C'est le dernier né de nos masters. Et on a aussi une mention pour former des professionnels, formateurs, d'enseignants, etc. Et puis deux licences professionnelles, une avec Supergro Florac et une avec à Perpignan, donc pas à Montpellier, mais à Perpignan, pour former des directeurs de structures d'accueil ou voilà.
Alors, le temps file, vous vous rendez pas compte. Il faut quand même dire un mot. Est-ce que vous pensez que par rapport aux enjeux et au débat même sur la formation des enseignants, les étudiants qui sortent de la faculté sont suffisamment armés pour faire face à ce que nous semble être la complexité ou la complexification de leur métier, la demande de la société, des familles, le contexte économique et social, les questions liées à leur revenu, à leurs conditions de travail? Est-ce qu'ils ont cette solidité qui leur permet de faire face à ce que semble être un exercice du métier peut-être plus difficile qu'autrefois?
Alors, je pense d'abord qu'on n'a jamais on n'est jamais complètement armé quand on rentre dans une profession, quand on débute. Ça, c'est une idée fausse contre laquelle il faut lutter. La formation initiale, c'est un point d'entrée. Et après, il faudrait une formation continuée. Et on sait bien qu'un des maillons faibles de l'éducation nationale aujourd'hui, pour X raisons, ça a été montré dans un rapport de la Cour des comptes, c'est qu'il n'y a pas de continuum de formation. Ça, c'est la première difficulté.
Un continuum, c'est-à-dire, y compris le volet formation continue.
La licence ou master, il y a un continuum disciplinaire pour le second degré. Pour le premier degré, on a essayé d'installer ce continuum avec notre licence et c'est plutôt efficace. Mais la difficulté, c'est que les master MEF aujourd'hui préparent à trois choses. Un développement de connaissances générales, parce qu'un enseignant, pour être armé pour la complexité, doit avoir un haut niveau de réflexion générale et d'esprit critique. Hein, c'est pas uniquement un métier technique, le métier d'enseignant.
Une espèce de solidité, intellectuelle et professionnelle.
Intellectuelle, c'est un métier intellectuel, voilà. Il doit avoir aussi une connaissance de la vie professionnelle. Hein, mais cette vie professionnelle s'apprend. L'autorité, par exemple, naturelle, elle peut exister. Il y a des étudiants qui très très vite se positionnent de la bonne façon, mais ça s'apprend. C'est faux aussi de penser que...
C'est pas inné, quoi.
On est prof ou on n'est pas prof. Hein. Et puis, le troisième point, c'est qu'ils préparent un concours. Hein, qui est un concours en M2. Donc, ils sont moins bien armés que s'ils avaient une solide formation sans ce concours. Donc, c'est une des réflexions, hein, de placer le concours avant. Donc, ils sont armés, mais pas complètement et pas suffisamment. Et surtout, ils ne sont pas forcément armés pour quitter une région et partir dans une autre. Ça, c'est une des vraies difficultés et les étudiants l'expriment très fortement.
La mobilité, que l'institution, que l'éducation nationale attend d'eux et à laquelle ils répugnent.
Ils répugnent parce que... alors, quand j'étais en Seine-Saint-Denis et que je voyais les gens de l'Hérault ou de Toulouse dire « Ah non, mais je veux repartir », je ne comprenais pas bien. Aujourd'hui, maintenant que je vis ici depuis 10 ans, je comprends. C'est évidemment un choc important.
De qualité de vie.
Si on n'a pas... Moi, j'ai beaucoup bougé dans ma vie. Hein. On a une vie un peu nomade. On s'est fixé ici. Je pense que je finirai ma carrière ici et ma vie certainement ici. Mais j'ai beaucoup bougé. Donc, quand on bouge, on apprend à s'adapter. Si on est déplacé sans avoir eu ces adaptations... Évidemment, c'est compliqué parce qu'on rentre dans un métier et on rentre dans un métier dans un autre contexte. Et on rentre en général dans les contextes les plus difficiles. Et ça, c'est vraiment une difficulté que les étudiants expriment de façon forte. Les salaires sont aussi... faible attractivité du métier sur le plan de la rémunération compte. Mais je pense que cette mobilité qui est imposée compte beaucoup aujourd'hui, peut-être plus... qu'il y a 20 ou 25 ans quand j'ai passé les concours.
Voilà, parce qu'on ne va pas épiloguer, mais on sait bien qu'il semble que la part relative donnée par les jeunes générations au travail et à la vie personnelle n'est probablement pas celle qu'on a connue, que j'ai pu connaître moi-même, mais je suis plus âgé que vous, et qui ont orienté différemment les choix. Quoi.
C'est ça. Et puis on rentrait dans le métier plus jeune. Donc, moins installé dans la vie. Quand on a fait 5 ans d'études, on a rencontré parfois un conjoint, un compagnon.
Ou une famille.
Voilà, on a créé une famille. Et donc, en tout cas, on aspire souvent à créer une famille une fois qu'on est installé. Et donc, cette rupture géographique de cette mobilité imposée, même si elle ne va pas très très loin, hein, la mobilité. Hein, les étudiants du premier degré n'ont pas envie d'aller à Béziers ou à Bédarieux. Ils peuvent sortir en Lozère, parce qu'ils sortent dans l'académie, ils sortent dans un département, mais pas forcément celui où ils ont étudié. Et ça, c'est une difficulté qui est compliquée hein, à
gérer.
Bien sûr.
Alors, dans les évolutions notables que vous avez pu constater, est-ce que la part des femmes parmi vos étudiants, elle a changé? Est-ce qu'il y a une tendance notable, dont on pourrait dire un mot? Ou est-ce que, voilà, parce que les questions de féminisation des métiers, bon, ça aussi, c'est une question transversale qui concerne tous les domaines, mais du côté de l'éducation, comment ça se présente?
Sur le premier degré, c'est très clair que... Moi, j'ai passé le premier concours en 1980, après mon bac. Et il y avait un concours non mixte. Il y avait une voix pour les garçons, une voix pour les filles. Il y avait 5 postes pour les garçons et 5 postes pour les filles. Et on était à peu près 500 filles. Il y avait 15 garçons.
Donc, ah, d'accord.
C'est pas d'aujourd'hui.
C'était une disproportion énorme.
C'est une histoire très ancienne. Et ce que j'ai dit ce que j'ai livré de mon enfance est très révélateur. C'est-à-dire que c'était un métier acceptable pour les filles, comme le métier d'institutrice, hein, comme le métier d'infirmière, par exemple. Après, dans le second degré, on voit aussi une féminisation importante. Ce qui est problématique, je trouve, c'est que cette féminisation est moins vrai quand on monte dans l'échelle sociale des métiers. Par exemple, à la faculté d'éducation, vous avez une proportion plus importante de femmes, mais je suis quand même la première femme à diriger cette maison depuis la création de l'IUFM, les années 90.
Et en France, les autres facultés d'éducation?
Alors, pas partout. Alors, les autres INSPE, en fait, parce qu'on est un modèle unique, hein, mais il y a les deux, il y a une mixité. Mais à la faculté d'éducation, par exemple, plus on monte dans la hiérarchie salariale, hein, enseignant, agrégé, moins on a de femmes. La proportion s'inverse, parfois...
Comme
dans d'autres métiers, je pense que c'est clair. Mais c'est un métier fortement féminisé, évidemment. Peut-être les salaires, ils sont pour quelque chose.
Alors, ce que je vous propose, une dernière question, c'est... vous l'avez un peu évoqué, quels sont les objectifs, les projets que vous préparez, les innovations qui sont en gestation, pour tenter d'en démontrer, comme vous avez commencé à le faire, que bon, cette faculté n'est pas figée sur des acquis ou simplement sur son histoire, mais elle s'efforce de mieux répondre aux besoins.
Alors, plusieurs objectifs. Là, on est dans des choix de politique générale, hein, de la structuration d'un composant. Un objectif majeur sur lequel nous travaillons dans le cadre des projets compétences et métiers d'avenir pour la création d'une école du numérique pour l'éducation, parce que c'est un enjeu fort. Je pense que c'est presque
évident,
aujourd'hui une lapalissade d'en parler, mais pas fermé sur l'enseignement. On veut monter une école du numérique pour l'éducation avec l'éducation populaire, hein, avec donc les territoires aussi, hein, ancrés dans le territoire, donc les conseils départementaux, la métropole. Demain, je vais échanger avec le vice-président du conseil départemental de l'Hérault pour avoir son soutien sur ce projet, mais aussi des mouvements d'éducation populaire, comme le mouvement des CMEA, hein, et puis la cohésion sociale avec l'association FER-ESS qui forme les travailleurs sociaux dans les IRTS. Voilà. Je pense que ça, c'est un enjeu fort, c'est un très gros projet dans le cadre des appels à projets qu'on est en train de développer. Et puis, tout ce qui touche aux politiques publiques de transition, hein, notamment la transition sociétale.
Très bien. Alors, vous aurez peu développé. Ça n'est pas possible, sans compter que je voudrais finir cette émission en disant un mot de l'émission de Divergence FM consacrée à l'éducation. Elle résulte du partenariat entre notre école et l'école de journalisme ESJ Pro et aussi du master de journalisme monté par l'ESJ Pro avec l'université Paul Valéry. L'émission s'appelle, petit clin d'œil, l'heure de colle. Elle a été conçue et réalisée par une dizaine d'étudiants du master. La première émission consacrée au décrochage scolaire est en ligne, en podcast sur notre site. La seconde, qui examine la place du corps à l'école, pas le corps de chasse bien entendu, sera diffusée mardi 20 février à 18h. Chers auditeurs, merci Madame Agnès Perrin-Doucet, je vous remercie de votre contribution à cette émission.
Merci à vous pour cette invitation.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis Montpellier-Rennes, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Sarov.
Donc vous êtes une Montpellier-Rennes, une pure jus.
Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.